Merci Roland pour ta prière dans laquelle tu nous replaces aussi devant la souveraineté de Dieu, devant l'amour de Dieu, devant la manière d'admirer ce Dieu que nous ne comprenons pas toujours très bien. Nous avons chanté un chant qui exprime ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Alors c'est bien et utile de s'apercevoir ce qu'on n'arrive pas à exprimer, mais c'est bien et utile aussi d'examiner son cœur et d'exprimer des vraies choses qui viennent du cœur, pas juste dire « oh ben c'est mon cœur » et puis tu trieras le reste, mais se positionner et puis d'avancer dans le sens. Merci pour ces prières, et c'est dans cet état d'esprit que nous ouvrons la parole. Exode, le chapitre 8, à partir de verset 16, et le début du chapitre 9, juste avant cela, j'introduis avec une question d'abord. Le 22 juin dernier, c'était l'anniversaire d'un événement qui a marqué l'histoire. Il y a 78 ans, 22 juin, il y a 78 ans, ce n'était pas une fête, c'est juste un anniversaire, il s'agit bien d'une armistice, mais qui ne représente pas une fête. Je vois vos yeux écarquillés, donc je donne un peu plus de précision. Eh oui, le 22 juin 1940 signait la France et l'Allemagne du Troisième Reich une armistice qui mentionnait la fin de la guerre. Mais une armistice qu'on ne fête pas, puisque c'était une armistice tragique. C'était le début de l'occupation. Et on en reparlera tout à l'heure à propos de ce texte. Et juste avant de me lancer dans la lecture de ce passage, je rappelle encore les versets précédents, 11 du chapitre 8, 14 et 15, qui sont un peu des moments clés de ce qui s'est passé. Verset 11, « Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit pourtant. » Au verset 14, « Et là, cette fois-ci, les magiciens ne purent pas, etc. Et ils dirent, c'est le doigt de Dieu. » Et puis, juste avant ce que nous avons à lire au chapitre 8, je reprends quand même au verset 15, le cœur de Pharaon s'endurcit encore. Et nous commençons la lecture du passage qui nous concerne aujourd'hui, c'est à partir de ce verset 16, j'entame. Exode 8, verset 16. « L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. » Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon, de ses serviteurs et de tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ? Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant prier pour moi. Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon et ses serviteurs de son peuple. Les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois-ci encore, endurcit son cœur et il ne laissa pas aller son peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur les troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et les brebis, et il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne paiera rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre et de fournaise, de cendre de la fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Jusque-là, cette lecture, qui parfois, eh ben voilà, trois plaies de plus, il y en a 10 au total, vivement la suite. C'est ce que j'ai pensé en voyant le texte que j'avais à préparer. Et puis, Dieu a à nous apprendre dans tous les détails. Et pour apprécier la libération, Dieu nous parle avec vérité de notre esclavage. Et bien sûr que c'est long, ces plaies, cette souffrance, cette tribulation. Mais Dieu nous explique dans le détail comment il agit, qui il est, mais il nous explique aussi qui nous sommes et comment nous sommes retenus, comment nous sommes asservis, quel est notre esclavage. Et c'est peut-être pas très agréable ces pages de plaies. Vous êtes venus là, on se réjouit d'un dimanche de vacances ensoleillées, et puis on parle de plaies, de pustules. C'est pas sympa du tout. Et pourtant, Dieu nous expose avec vérité qui nous sommes, d'où nous venons, pour nous faire comprendre où il veut nous emmener et quelle est la saveur de sa libération, mais aussi et surtout le prix de sa libération. Il n'y a pas de salut sans repentance, et il n'y a pas de repentance sans la compréhension, et sans la compréhension de son esclavage et de son péché aussi. Cette histoire nous montre qu'il ne pouvait pas y avoir de libération à l'amiable. On se dit au début, ben voilà, va trouver Pharaon et puis dis-lui, laisse aller mon peuple. Puis on se dit, ben peut-être que ça va marcher, ce serait bien. Puis au début, on espère que Pharaon comprenne, certainement même que Moïse et les autres avaient cette prière, ben que Pharaon soit saisi devant la puissance de Dieu, puis qu'il comprenne, et puis qu'il accepte, qu'il rentre en repentance, Pharaon lui-même, et puis qu'il dise, oui, je reconnais, allez-y. Et puis plus ça avance, plus on s'aperçoit que c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et ce texte nous montre ici un tournant dans lequel on comprend, peut-être entre les lignes, mais on comprend que ça ne pouvait pas être une libération à l'amiable. Et c'est pour ça que je repars de cet exemple que je mentionnerai aussi tout à l'heure, ce 22 juin 1940, ça, c'était une libération à l'amiable. À l'amiable. Je le dis avec toute humilité, je vois dans la salle des gens qui l'ont vécu avec une émotion forte et puis qui se sont préparés à la suite de cet armistice entre le Troisième Reich et puis la France, à des années d'occupation. C'était l'armistice, donc officiellement la paix, mais la paix parce que l'oppresseur était là et puis qu'il occupait le pays. Et après cet armistice, l'Europe a connu les heures les plus sombres de son histoire et les plus tragiques et les plus sanglantes. Après cet armistice de paix, ben c'était pas une armistice. Elle ressemblait à une armistice, mais ça n'était pas une armistice. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai bien dit l'anniversaire et non pas la fête de cet anniversaire. Non, on peut fêter la mort ou la naissance ou la mort d'un compositeur, d'un écrivain, mais là, il n'y a rien de fête. C'est juste un anniversaire. Ce moment, cet armistice qui signe le début de l'occupation, nous parle du compromis. On y reviendra un petit peu plus tard, mais j'aimerais d'abord revenir sur la description des acteurs qui sont dans ce texte, avec quelques remarques concernant le Pharaon et ces magiciens. Je vous expose un peu mon plan, et puis ensuite je vous parle comment lire ce passage. J'ai mis un titre, les vrais ennemis de la vraie liberté. Les vrais ennemis de la vraie liberté. Et justement, avec cet exemple de l'armistice, c'est une fausse armistice, ce sont des faux amis au moment où signe l'armistice. Il s'agit de bien identifier qui sont les vrais ennemis. Et le but, quelle est la vraie liberté? Dans ce passage, on voit qu'il y a, à un moment donné, de la fausseté. Il y a même, on dirait, une espèce d'amitié, fausse bien sûr, mais une espèce de complicité. En tout cas, on cherche une solution à l'amiable. Il faut se rappeler qu'ils sont les vrais ennemis pour viser une vraie liberté. Et ça, c'est la mission de Dieu, de tout temps. Et ce texte-là nous parle de ça. Forcément, alors, prenons au fur et à mesure. Voilà le texte. Les vrais ennemis, Pharaon, les magiciens, les Égyptiens de façon générale, mais les vrais ennemis aussi, plus que les personnes, le compromis. Les vrais ennemis, plus que les personnes aussi, le mensonge, la feinte, l'hypocrisie. Puis ensuite, nous verrons ce que c'est que la vraie liberté. Et là, nous irons à la lumière de la suite, et notamment de l'Évangile. Juste avant ça, en parlant des vrais ennemis, je reviens sur qui est Pharaon et les magiciens. Et je mentionne une chose qu'on a vue dans le texte. Dieu fait la distinction entre son peuple et le peuple des Égyptiens, entre Gozen et le reste du territoire. C'est la première fois qu'il fait la distinction. Je ferai la distinction. Et je profite de cette distinction pour voir aussi une gradation dans le rôle de Pharaon et des magiciens. Pharaon, c'est un homme pris dans son pouvoir, pris dans son autorité, pris dans son propre péché, dans ses propres choix. On voit son comportement, on voit d'ailleurs dans sa manière de feinter ce comportement très humain. Au moment où la douleur est forte, il est prêt à revenir en arrière. Je veux dire, alors, arrête la tribulation, arrête la plaie, et je te donnerai la liberté. Et parfois, on est comme ça, nous aussi, pris dans la souffrance, pris dans l'épreuve terrible, on pourrait dire devant l'extrémité, prêt à faire des concessions, prêt même à se repentir. Et puis on voit que dès que la souffrance, même pas elle s'éloigne, mais elle s'atténue, et tout de suite, on revient à son esprit et on recontinue une vie sans repentance. Nous sommes des hommes de la même nature que cet homme, Pharaon. Et j'aimerais mentionner à ce moment-là que notre choix de nous repentir ou de ne pas nous repentir peut être motivé, peut être aidé par une situation, par une épreuve, par une souffrance. La souffrance peut nous inciter à réfléchir différemment. Mais ce n'est pas l'émotion ou la sensation ou la douleur qui nous fait prendre la décision. Parce que sinon, ce n'est pas une décision qui a de la valeur. Il faut que la décision, elle vienne de nous pour de vrai, vraiment, du fond de notre cœur. Et là, j'aimerais lire aussi ce passage. Matthieu nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça vient de nous, de notre cœur. Mauvaise nouvelle, ce matin, ensoleillé. C'est de notre cœur que ça vient, pas des autres, ni même de Pharaon, ni même des méchants. Mais la suite, on le trouve plusieurs passages, j'en sélectionne un, dans 2 Corinthiens 7, verset 10. « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent pas, c'est-à-dire dont on ne revient, peut pas revenir en arrière, une repentance irréversible. Tandis que la tristesse du monde, elle, produit la mort. » Que nos émotions nous aident à trouver le salut et à décider de la repentance qui conduit au salut. Mais ce n'est pas la souffrance, la sensation, le ressenti qui prend les décisions à notre place. Jamais, puisque là on voit Pharaon qui est prêt à revenir en arrière, et dès que la douleur s'en va, finalement, il se ressaisit et il oublie. Je donne rapidement j'étends ce témoignage. Déjà par un souvenir, au début de mon autonomie avec le permis de conduire, je me rappelle avoir changé un petit peu l'avant de la voiture de mon papa. Et à ce moment-là, conscient que c'était assez grave, j'aurais tout donné pour réparer. Je commençais un apprentissage avec quelques sous. Dans ma tête, allez, même s'il faut que je donne ma paye sur 2 ans, il faut que je répare ça. Puis on fait le tour de la voiture, c'est pas aussi grave que ce que je pensais. Le lendemain, j'ai réussi à maquiller un petit peu. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est peut-être pas si grave que ça, qu'on peut quand même un petit peu maquiller et que finalement, notre envie de réparation, de repentance, d'utiliser une grosse implication pour rétablir l'intégrité de pare-choc, par exemple, et bien tout ça, ça s'éténue et puis finalement, on va se débrouiller avec des petits bouts de ficelle, du scotch et tout ça. Il a fallu attendre plusieurs mois pour que tout soit au grand jour, avec des conséquences que j'avais jamais imaginées, avec des dégâts que je n'avais pas imaginés non plus. Et ça a été pour moi un vrai apprentissage de la joie qu'il y a à se repentir et aussi un avertissement sur le fait que l'homme peut avoir une bonne disposition quand il est justement dans cette compréhension de sa souffrance et qu'il a une mémoire très courte. Et j'ai pu expérimenter à d'autres moments dans ma vie, j'espère que vous aussi, que l'homme a malheureusement une mémoire très courte. Quand on reprend la Sainte Cène ici, on est forcé de se rappeler que notre péché, c'est pas juste un désagrément dans nos vies, que notre péché coûte la mort du Seigneur Jésus. Et on a la mémoire bien courte. Parce que dans la suite, on se rappelle que oui, finalement, ça ne va pas si mal que ça, et puis je fais ci, puis je fais ça, puis le Seigneur est grand, et puis c'est génial. N'oublions jamais qu'on a la mémoire courte, et rappelons-nous d'où nous venons, et rappelons-nous que le pouvoir de rédemption de Dieu pour nous est bien plus grand même que ce qu'on imagine, parce que notre péché est bien plus grand même que ce qu'on imagine. Voilà pour ce caractère humain de Pharaon. Bien sûr, il y aura la suite. Mais à ce moment-là, j'aimerais mentionner que Pharaon, enfin que dans la distinction que Dieu fait entre « je mettrai une différence », une distinction entre mon peuple et le peuple des Égyptiens, nous montre aussi que Pharaon, c'est un homme avec son péché, avec sa manière de faire. Mais à partir de là, il incarne aussi, non pas l'homme qu'il est et qui peut me servir de contre-exemple ou d'avertissement, mais il incarne aussi, plus que l'homme, il incarne le péché lui-même, les conséquences du péché lui-même. Il incarne l'esclavage du péché pour ce peuple. Il incarne Satan. Tout simplement. Donc il y a ces deux dimensions dans la personne de Pharaon, l'homme qu'il est, avec des choses qu'on peut voir, qui peuvent nous ressembler, et puis aussi ce plan. Et j'aimerais aussi mentionner, dans une discussion que j'avais avec Marie, ma femme, qui me disait, mais c'est quand même fou, il est l'outil de Dieu pour ce jugement. Oui, mais il l'a choisi. Il l'a choisi. Et il le choisit dans les conséquences. Ces conséquences, peut-être qu'il les a choisies 10, 20, 30, 40 ans avant ça. Et là, il est dans une spirale qu'il ne maîtrise plus, dont il ne peut plus se dégager. Et la libération ne peut plus se faire à l'amiable à partir de ce moment-là. C'est déjà trop tard pour lui. Il l'a choisi, il a choisi de rester en opposition, il a choisi de valider cette opposition avec Dieu, et à ce moment-là, il ne fait que vivre les conséquences de son péché. D'ailleurs, on lit à plusieurs endroits, mais on reprendra plusieurs fois le chapitre 8 de Jean, qui nous dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Et puis dans Jacques, on lit aussi la convoitise. Je vais le prendre pour être sûr de dire juste. Jacques 1. Voilà. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et là, la suite. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. » Et là, nous voyons un pharaon qui a déjà, bien avant, fait le choix de se rebeller contre Dieu, de désobéir. Et là, il est juste dans la suite normale de sa rébellion, de sa convoitise, de son péché. Et puis la suite du péché, c'est la mort. Il n'a plus la capacité de revenir en arrière. Et je pense que vous êtes bien d'accord avec moi, et en regardant l'état de la planète, et en regardant d'une manière honnête l'état de nos vies, avant la rébellion, avant la repentance, pardon, l'état de nos vies de rebelles avant la repentance, et je vous aide encore un petit peu plus avec l'exemple qui concerne l'histoire de cette deuxième guerre. Vous êtes bien d'accord que l'armistice à ce moment-là ne pouvait pas être une vraie armistice, une vraie libération, si elle était à l'amiable. L'ennemi, je ne veux pas faire un cours d'histoire, mais excusez-moi de mentionner l'homme, Hitler, avait déjà pris des décisions bien avant qui faisaient que c'était irréversible. Irréversible. On ne pouvait pas imaginer que, ah ben non, je me suis trompé, du coup, chacun reprend son pays et je vous demande pardon. Non, c'était plus possible, parce que les décisions étaient déjà prises. Et donc, je veux bien mentionner que chaque homme a la liberté de choisir pour ou contre Dieu. Naturellement, l'homme est rebelle contre Dieu. À chacun la liberté de se repentir. Mais une fois que la validation est faite de s'opposer à Dieu, alors là, c'est trop tard. Et Dieu ne peut pas être trompé. Et finalement, l'homme esclave de son péché ne peut que se diriger vers le fruit, c'est-à-dire la mort. Voilà en remarque. J'en viens dans ces éléments qui font des vrais ennemis, les vrais ennemis de la vraie liberté. Le but, c'est de trouver la vraie liberté. Et pour cela, c'est bien de connaître la vraie liberté, c'est bien d'identifier aussi les vrais ennemis. Nous avons parlé de Pharaon. Nous parlerons tout à l'heure des magiciens. Et puis, nous voyons dans ce passage des remarques assez surprenantes de la part de Pharaon, qui nous dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Et là, ça passe vite, le « dans le pays ». Mais dans le pays, ça voulait dire « faites des sacrifices ici, mais restez, mais faites-les par là ». Non, Dieu avait dit « tu iras dans le désert, tu feras 3 jours de marche pour offrir des sacrifices ». Et Pharaon propose un compromis. Et l'ennemi, ici, c'est plus Pharaon, c'est son discours et c'est le compromis. C'est l'envie de se débrouiller avec quelque chose qui finalement pourrait être acceptable. Mais la réponse de Moïse, elle est claire. Non, il n'est pas convenable de faire ainsi. Ben déjà parce que le sacrifice, alors il le mentionne, serait une abomination devant les Égyptiens. Et puis il nous lapiderait. Puis le sacrifice à Dieu n'est pas quelque chose à faire en exposition, en démonstration. C'est quelque chose à faire en vérité et même dans le secret, j'aimerais dire. Dans le secret, disons, à l'intérieur du peuple. Ce n'est pas quelque chose en exposition aux autres. Il faut qu'il soit vrai. Il ne faut pas qu'il soit juste une démonstration. Et puis ces 3 jours de marche, ils sont importants. S'arrêter, sortir, faire une pause. Ce n'est pas juste un truc qu'on rajoute comme ça. Et puis on a fait ce qu'il y avait à faire. C'est pas juste pour la forme. C'est qu'on a besoin de cette pause. On a besoin de se sortir, d'arrêter. Peut-être que les vacances sont un bon moment pour arrêter et puis pour repositionner. Moi, j'en ai besoin. L'objectif d'un camp, aussi bien pour les jeunes qui vont partir que pour les cadres qui l'accueillent, c'est ça. C'est arrête le stress de tout, de savoir qui tu es dans ton boulot, dans ton lycée, dans ton collège, de savoir comment tu existes grâce à Facebook. Arrête. Pose-toi. Pars 3 jours dans le désert. Et là, t'offres des sacrifices sans que ce soit une démonstration, sans que ce soit pour être vu des autres, sans que ce soit pour calmer quelque chose. Dieu a en programmation pour l'homme en général et pour ce peuple en particulier une vraie libération, pas un soulagement temporaire. Pas on fait ça et puis finalement c'est tellement proche de l'esclavage où vous étiez, finalement ben repentance le lundi puis re-esclavage le mardi. Comprenez, si j'étais resté dans le pays comme propose Pharaon, on avait l'impression que c'était fait. Puis c'était pas fait, c'était encore pire. C'était encore pire parce que la réponse était quand même donnée. Et puis il n'y a plus cette chance que ce soit irréversible. Et Dieu veut nous libérer d'une façon irréversible. C'est pas encore mentionné, mais ces 3 jours de marche qu'ils vont faire dans le désert, on le verra par la suite. L'événement irréversible, c'est la traversée de la mer Rouge. Miraculeuse, alors bien sûr, itinéraire prévu, choisi par Dieu, pour qu'il soit miraculeux, pour qu'il soit irréversible. Mais on a besoin du miraculeux et de l'irréversible. Sinon, on se repent le lundi et on retourne en esclavage le mardi, peut-être même déjà le lundi soir. Non, nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Alors là, la suite, verset 24, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Oui, dans le désert, j'ai compris que, voilà, dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas trop. Alors, c'est dans le désert, mais vous n'éloignez pas trop. Et en y allant, vous êtes prêts? Priez pour moi. Non mais, on réalise là ce qui se passe. C'est-à-dire que Pharaon a compris qu'il n'y avait pas de compromis. Et c'est utile de se positionner pour qu'il n'y ait pas de compromis. Mais ce n'est pas fini. On n'est pas sorti d'affaires. Des fois, on pense qu'on a identifié le compromis qui est là et puis on a oublié qu'on était dans un monde pécheur et de péché en général. Puis on est tout content d'avoir identifié quelques mètres cubes de compromis en pensant que tout le reste de la planète est propre. Non. Là, il y a une autre mise en garde. Et on identifie un autre vrai ennemi dans le but toujours de retrouver la vraie libération. Et là, cette fois-ci, c'est la feinte, la séduction, le mensonge, l'hypocrisie. Oui, allez dans le désert, mais vous éloignez pas trop. Je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement. Et puis en y allant, priez pour moi. On est potes, non? Regardez, je vous fais vivre, vous êtes bien, vous avez prospéré, vous étiez quelques-uns dans votre famille, puis maintenant vous êtes des centaines. On fait des choses magnifiques ensemble, regardez ces pyramides. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, parce que ça c'est compliqué, j'y étais pas. Allez, priez pour moi. Je ne vais pas aller trop loin dans cette analyse, mais bien sûr que nos collègues, nos amis qui nous disent ben, « prie pour moi », ce n'est pas des choses qu'il faut dénigrer. On prie pour eux. Et certainement que Moïse priait pour Pharaon. Mais on l'a vu, le choix de Pharaon était déjà fait. Même si humainement, on pouvait espérer que ça change encore, mais spirituellement, historiquement, C'était réglé. Prie pour moi, mais oui, ça ne nous empêche pas de prier pour nos amis, nos frères, nos collègues qui sont encore rebelles à Dieu, qui n'ont encore pas voulu de la repentance, qui n'ont encore pas voulu reconnaître que Dieu les aimait et qui voulait les libérer. On peut prier, mais on peut prier pour qu'ils connaissent la repentance, pas pour qu'ils connaissent un soulagement qui les fasse croire qu'ils n'ont toujours pas besoin de la repentance. Et on peut prier pour eux, mais on doit aussi les avertir de ce que représente à la fois leur rébellion et les conséquences d'une rébellion, et à la fois le plan de Dieu qui est la repentance et la libération, la vraie, la libération spirituelle. Alors je ne sais pas trop quoi tirer de ce prier pour moi, mais en tout cas c'est Pharaon qui dit ça, ça veut dire qu'il sait séduire, il sait dire le truc qui a l'air d'être bien à dire à ce moment-là, pour que ça passe bien, pour que finalement, c'est bien, il nous propose une solution où on va quand même dans le désert, mais pas trop loin. Puis il a l'air d'être à peu près réceptif. Je répète, il y a eu Pharaon homme, et là on est Pharaon représentation du péché, des conséquences du péché, et incarnation de Satan dans l'œuvre, dans le projet de Dieu. Et ça me fait penser à ce moment-là, on aurait pu déjà le mentionner avant, à cet échange entre Jésus-Christ et Satan, au début de son ministère, dans le désert, oui, 40 jours de jeûne, et puis ce dialogue qu'il y a entre Satan et Jésus. Luc 4, Marc 4, Matthieu 1, Marc 1, pardon, et Matthieu 4, où on voit Satan qui essaye de dire des choses plaisantes pour que finalement on se débrouille à l'amiable dans le but d'éviter une vraie libération, la vraie mission de Jésus. Et le point culminant de ce passage, c'est Satan qui propose à Jésus toute la gloire si Jésus adore Satan. Quand Pharaon dit « prie pour moi », je ne prétends pas qu'il y ait tout ça là derrière, mais il y a cet esprit de séduction qui nous dit « ouais, ça a l'air bien, ça a l'air cool ». Et puis le contour est pas trop défini, et le seul but de pas trop définir le contour, c'est de, en tout cas, pas accéder à une libération dont le contour est bien clair. Et quand Satan propose ça, c'est une abomination à Jésus. Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre, pas pour plaire. Il a fait des miracles qui étaient plaisants, qui étaient beaux, mais ce n'était pas le but ultime. Il est venu pour, j'allais dire réparer. Non, il n'est pas venu pour réparer. Il est venu pour mettre la vie là où il y avait la mort. Il est venu pour éradiquer la puissance du péché. Et ce n'est pas un pansement. Ce n'est pas quelque chose de cool ou de sympa. Et pour ce but, Jésus a dû refuser ce qui semblait être spirituel dans le projet de Satan, qui était en réalité simplement l'objectif de Satan d'éviter à Jésus les souffrances, le calvaire, la croix, la mort à la croix, la prise en compte de Jésus, enfin du péché sur les épaules de Jésus. Jésus a pris le péché, il est mort, il a anéanti la puissance du péché. Et s'il n'y avait pas eu cette démarche, eh bien c'était inutile. Voilà ce qu'on peut dire à propos de ce deuxième ennemi, le mensonge, la feinte, l'hypocrisie, la séduction, les fausses promesses. J'aimerais juste mentionner encore une fois dans Jean 8, ce verset. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et on voit Moïse qui est obligé. Il sait que Pharaon ment, mais il est obligé de prendre en compte et de dire d'accord, eh ben j'attends jusqu'à demain. Il sait qu'il ne va rien se passer ou que même Pharaon va revenir en arrière. Mais il est obligé de respecter cette parole parce que lui, Moïse, Dieu, sont honnêtes. Et c'est compliqué entre une personne honnête qui dit la vérité de se positionner devant quelqu'un qui ment tout le temps. Et un menteur, s'il disait tout le temps le mensonge, ce serait simple, il suffit de prendre l'inverse. Mais un menteur se déguise en disant des fois la vérité pour qu'on ne sache pas quand est-ce qu'il dit le mensonge. Ça devient compliqué là. Dieu, lui, dit tout le temps la vérité. Il dit la vérité quand il nous dit qu'il nous aime, il nous dit la vérité quand il nous dit qu'on est pécheur et que ce péché nous rend esclaves. À nous de savoir écouter celui qui dit la vérité dans le but de la libération, bien sûr. Et à nous de se méfier du menteur, des menteurs, du menteur par excellence, Satan, mais que nous sommes aussi, nous, parfois, nous-mêmes, dans notre conscience, dans tout ça. Dans les plaies qui vont suivre, Dieu met un signe particulier. Donc, on a vu qu'il y a cette distinction entre Gozen et puis le reste de l'Égypte. Et puis, les cibles qui vont avoir lieu sont le bétail. Mais ce n'est pas juste le bétail. Ce sont les animaux et dans la divinité des Égyptiens, tous les animaux qui sont là sont des représentations de leur divinité, des dieux, donc chevaux, bœufs, ânes, brebis, enfin je ne connais pas tout, mais en tout cas, ceux qui vont, c'est plus que du bétail qui servent à la ferme, sont directement le symbole de la divinité des Égyptiens qui sont abîmés. Symbole aussi de la prospérité, de tout ce qui servait de refuge aux Égyptiens. Dieu y va par gradation, Dieu parle de plus en plus fort, et Dieu détruit les uns après les autres, les idoles, les refuges, les manières de vivre sans Dieu. Donc ici, les animaux, et les animaux sacrés, un peu plus loin, les hommes, les humains, avec ses ulcères, et on lit que après, on lit pour les Égyptiens, après qu'ils aient à trois reprises imité les miracles opérés par Moïse et Aaron, on a lu au chapitre d'avant que là, ils ont rien pu faire, juste en remarque comme ça, à chaque fois, ils ont réussi à imiter les plaies, mais ils n'ont jamais réussi à dégager des plaies. Donc ils ont réussi à imiter en faisant encore pire. Regardez, nous aussi, on arrive à mettre des plaies. Ben ouais, une plaie de plus, quoi. Ensuite, ils n'arrivent pas à faire. Et puis là, c'est juste mentionné, les magiciens ne purent pas se présenter devant Moïse parce qu'ils avaient, comme tous les autres hommes d'Égypte, un corps recouvert de ces plaies. À partir de là, on ne parlera plus des magiciens. On continuera de parler de Pharaon qui continue de s'endurcir. Dieu parle de plus en plus fort et Pharaon s'endurcit de plus en plus dans son mensonge et dans tout ce qu'on a vu qui est déjà irréversible. Et on arrive à cette dernière phrase du texte que je lis. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Donc selon ce que l'Éternel avait déjà dit, ce n'était pas nouveau, ce n'était pas quelque chose de nouveau, une information nouvelle pour Moïse, il le savait. Dès l'appel, l'appel à ce ministère. Mais c'est quand même un tournant énorme. Comme je l'ai dit, ça n'arrive pas là, ce pauvre Pharaon, il est victime de la souveraineté de Dieu qu'il condamne dans cet endurcissement. Non, cette fois, il s'est positionné. Pharaon endurcit son cœur, le cœur de Pharaon s'endurcit. Et là, c'est Dieu qu'il met en face de ses responsabilités. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et je le dis avec émotion, avec toute la compréhension de ce que Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas voir plus tard. On verra bien. Je m'expliquerai devant Dieu. Si Dieu est bon, ça se passera bien. Mais non, justement. Dieu est bon, mais moi non. Donc ça ne peut pas bien se passer. Moi, mauvais, devant Dieu, bon. Et là, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Ça me fait penser à cette phrase de C.S. Lewis qui dit « Que ta volonté soit faite ». Et C.S. Lewis explique « Il y a deux catégories de personnes. Au final, en plus de savoir s'il y a les riches, les pauvres, et puis, etc., les opprimés, les oppresseurs, les gentils, les mignons, il y a deux catégories de personnes. Que ta volonté soit faite. Ceux, dans cette catégorie, qui disent à Dieu, « Dieu, que ta volonté soit faite », et qui marquent là le besoin que ce soit Dieu qui décide, le besoin de reconnaître la souveraineté de Dieu et finalement le besoin de repentance, que ta volonté soit faite, Dieu, toi qui es bon. Puis l'autre catégorie de personnes, celle qui ne reconnaît pas la position de Dieu. Et alors cette fois-ci, c'est Dieu qui dit à ces personnes que ta volonté soit faite, ta volonté de rebelle, ta volonté qui rejette la bonté de Dieu. Ta volonté qui refuse la repentance, qui refuse non seulement l'amour de Dieu, mais cette proposition de libération. Et Dieu leur dit que ta volonté soit faite. On admire à ce moment-là la terrible honnêteté de Dieu, la terrible vérité de Dieu, qui fait que nous dire, qui fait que accomplir ce qu'il a prévu. Soit c'est nous qui demandons à Dieu que sa volonté soit faite, soit c'est Dieu qui nous dit, d'accord, qu'il en soit comme tu l'as voulu dans ta vie. Et là, c'est tout simplement ce qu'il dit à Pharaon. Dieu endurcit son cœur. Enfin, une vraie libération, les vrais ennemis pour une vraie libération. Et j'arrive sur la vraie libération. Ça ne fait pas tellement partie du texte, mais je le mentionne quand même parce qu'on ne veut pas s'arrêter simplement là. Pour comprendre quels sont et qui sont les vrais ennemis, comment ils fonctionnent, c'est pour savoir et projeter que Dieu a en projet une vraie libération. Et je reprends simplement Jean 8, que nous avons mentionné à plusieurs fois. Et j'ajoute, et je reprends le verset 34 et je vais jusqu'au verset 36. Donc Dieu rappelle avec vérité Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et puis au verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le point de la vraie liberté, il est un objectif de Moïse et de Aaron et de tout le peuple pendant cette tribulation terrible, dans laquelle ils doivent distinguer qui, quoi est le vrai ennemi, mais le vrai ennemi pour une vraie libération. Et la vraie libération, il n'y a que Dieu qui peut l'apporter. Et nous, nous avons le bénéfice de voir que c'est Jésus seul qui apporte cette libération. Si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il n'y a que Christ qui peut affranchir. Partout dans l'évangile de Jean, il nous dit, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Tout le reste qui n'est pas Jésus, c'est au pluriel, mensonge, hypocrisie, perte, esclavage, mort. Je vous laisse avec ce passage et puis cette mention. Que nous puissions répondre juste, que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, avec notre manière de choisir, que ce soit l'homme qui choisisse que la volonté de repentance de Dieu, d'amour, de libération de Dieu soit réalisée, et non pas notre volonté de rébellion et d'esclavage qui soit réalisée. Je prie. Seigneur Jésus, Père éternel, Saint-Esprit, tu as tout mis en œuvre pour accomplir, acquérir une vraie libération. Merci parce que tu n'as pas hésité à identifier les vrais ennemis de cette liberté. Merci pour ta parole qui nous montre tout de ton projet, mais qui nous montre aussi tout de notre péché, de notre esclavage, de nos mécanismes pour lesquels nous sommes à la fois victimes et à la fois responsables. Seigneur, pardonne-nous et merci parce que tu as dans le but de nous libérer vraiment. Quand tu nous parles de ces choses dures, de ces plaies dures, c'est pour nous annoncer une vraie libération, une vraie liberté, définitive, irréversible, parfaite. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu l'as acquise au prix de ta vie. Amen.